et bonjour et bienvenue. Voilà, à vos deux radios, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Voilà, j'avais beaucoup de musique dans le casque, c'est pour ça que voilà, ça me perturbe un petit peu. Bienvenue sur l'antenne d'Eau de Radio. Voilà, on est présent bien sûr avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle, comme chaque jour du lundi au vendredi. Voilà, le journal c'est en direct à midi, rediffusé à 15h-18h. On rappellera juste comment nous suivre à la bande FM 83 depuis le mois de juillet 1997. Le DAB, la radio numérique terrestre, DAB ou DAB+, et odoradio.fr, j'en profite pour dire, c'est ça qui nous a perturbé un petit peu, on a eu des soucis hier, donc vous avez pu nous suivre que par la FM, et là tout est rétabli, donc c'est tant mieux, vous avez trois moyens de nous suivre, et ça c'est plutôt sympa. Allez, tout de suite le sommaire du journal et du magazine thématique à suivre. Donc sur la partie journal, en ce mardi 21 janvier, c'est Liam qui nous présentera quelques brèves d'infos. Ravi de retrouver Paul-Antoine Le Guillou et aujourd'hui avec Jade, qui est elle-même en service civique, chargée de communication de l'association Artung Culture. Magnifique accent, vous avez remarqué. Paul-Antoine qui est stagiaire au sein de cette association. Il y a beaucoup d'actualités. Alors Gwenaëlle Lamarck, notre invitée, était venue en tant que directeur de la Maison de l'Europe. Tout va bien, c'est juste les volets qui se fracassent. Il s'en passe des choses. Voilà, on en avait parlé avec Gwenaëlle Lamarck, directeur de la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine. En ce moment, c'est la semaine de l'amitié franco-allemande. Voilà, depuis ce lundi jusqu'à lundi prochain. On en parlera parce que des événements sont organisés dans ce cadre-là. Il y a l'exposition qui va se dérouler un petit peu plus tard, du 1er février au 29 mars, Das Braun Design, voilà, avec mon accent. Et il y aura d'autres événements un petit peu plus tard, donc on prendra le temps avec nos invités du jour bien d'évoquer tout cela. Pour la partie musicale, voilà, on soutient beaucoup de concerts et d'artistes, notamment Ménidja. Il est en tournée dans le cadre des petites scènes de l'IDAC, avec notamment eh bien, ce week-end deux concerts à la salle des fêtes de Mios, puis à Saint-Médard-en-Jal. Et tout à l'heure, si vous êtes bien à l'écoute, on vous fera gagner les premières places pour le concert du 31 janvier. Ce sera à l'espace Kérando à Saint-Jean-d'Illac. Voilà, on aura deux places à vous faire gagner, donc soyez à l'écoute tout à l'heure. Et comme tous les mardis, ce sont nos jeunes reporters européens, nos JRE pour l'acronyme, nos jeunes ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes et européennes, pour ce magazine réalisé en partenariat avec l'AMEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Et aujourd'hui, ils vont aborder comme thématique le changement climatique, avec notamment les résolutions pour 2025, et ils vont faire réaliser un petit tour d'Europe. Voilà pour le sommaire du journal et du magazine thématique à suivre. Et pour ouvrir donc ce journal en ce mardi 21 janvier, c'est donc Liam qui va nous décliner quelques brèves d'infos. Bonjour Liam.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. On commence nos actualités avec un club ado proposé à Lormont demain et le 12 février. Au programme, un atelier lecture de BD, romans ou manga, sera proposé, ainsi que des jeux vidéo et le partage de séries TV. Le club est gratuit et accessible dès 12 ans sur inscription. Venez donc partager vos différents coups de cœur de 15h à 16h30 à la médiathèque du Bois-Ferry. On a parlé des jeunes, maintenant côté senior, les équipes du CCAS de la ville de Ambarès et La Grave vous proposent demain un après-midi sur les nouveaux jeux de société. Cet atelier se déroule dans le cadre de la programmation Génération Senior. L'événement prendra place à la résidence Autonomie Le Moulin de 14h à 17h. Pour réserver ou toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter directement le CCAS. On continue avec un atelier d'installation de nichoirs à Mésange proposé par la ville de Floirac et les Jardins Garonnais. Vous y découvrirez la ferme agricole du canon des Jardins Garonnais, les différents animaux présents et pourquoi les mésanges sont si utiles pour les arboriculteurs. L'atelier est gratuit mais limité à 40 personnes, donc pensez bien à vous inscrire. Rendez-vous donc demain à 14h30. Vous pouvez d'ores et déjà noter cette date dans votre agenda, le mercredi 29 janvier, au gymnase Brassens-Camus. La ville de Lormont accueillera une journée exceptionnelle avec trois légendes du judo, Nakamura Misato, Ryonosuke Haga et Larbi Benboudaoud, qui animeront des séances d'entraînement pour les judokas locaux. Cet événement, organisé en partenariat avec France Judo, permettra aux participants de s'initier et de perfectionner leur technique aux côtés de ces champions. Il y aura une réception officielle en mairie dès 17h30 et l'entrée est gratuite pour tous. Enfin, on termine avec une info importante. Les parents de 5e et de Nouvelle-Aquitaine ont jusqu'au 10 mars 2025 pour faire vacciner leurs enfants contre le papillomavirus humain, le HPV. Cette campagne, menée par l'ARS et ses partenaires, offre une protection contre les cancers liés aux HPV. Les parents peuvent s'inscrire en ligne via la plateforme sécurisée www.vaccination-hpv-nouvelleaquitaine.fr. Voilà, c'est tout pour les brèves d'aujourd'hui. Merci Joël.
Allez, merci Liam pour ces quelques brèves. Allez, on va accueillir comme il se doit nos invités du jour. Jade, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour.
Donc je disais en préambule, vous êtes, votre statut, je ne rentre pas dans la vie privée bien sûr, service civique au sein de l'association Artung Kultur.
Hein.
J'ai essayé pour l'accent. Paul-Antoine Le Guillou, voilà une voix qu'on connaît bien à Eau de Radio. Voilà, on a eu le plaisir de partager de bons moments ensemble. Vous êtes donc stagiaire au sein de même association, hein. C'est bien cela?
Oui, c'est ça.
Voilà, donc bienvenue et puis merci Paul-Antoine d'avoir organisé ce rendez-vous, ce direct. Alors beaucoup d'actualités pour l'association. Et justement, avant de rentrer sur les événements, si vous voulez me présenter cette association, les missions, objectifs, etc.
Bien sûr. Donc Artung Kultur, c'est une association qui a pour objectif en fait, de faire vivre la culture franco-allemande et germanophone. Et on explore la culture dans ses divers angles, via des expositions, via des conférences, mais il y a aussi des projections de films, des ateliers, des rencontres. Et en fait, notre objectif principal, c'est de mettre en lumière les acteurs germanophones, de soutenir leurs projets, de fédérer leurs initiatives et d'exposer leurs talents au public.
Voilà, des événements, ça ne manque pas.
Hein. Voilà, c'est ça.
Vous allez pouvoir. Donc c'est une association qui a un lien néanmoins avec le consulat.
Oui.
Ça permet de valoriser, bien sûr, de belles actions, à l'instar de ce dont vous allez parler là, parce que l'actualité, riche actualité. Alors peut-être commencer de manière chronologique, parce que là, je le rappelais, je fais un petit coucou à nos amis de la maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Hein. Il y aura d'ailleurs des jeunes volontaires juste en suivant. Donc, Semaine de l'amitié franco-allemande. Je crois que c'est la troisième édition. Et là, sur cette semaine, donc il y a des rendez-vous que vous organisez,
oui.
Vous, avec l'association. Ben, je vous laisse les présenter. Il y en a deux, hein, si je ne me trompe pas.
Eh bien, nous, on en a un peu plus. Mais il y a pas mal de rendez-vous qui sont...
Non, mais deux en lien avec vous.
Ah oui, en lien avec vous. Avec nous, je crois qu'il y en a un peu plus. Mais
S'il y en a d'autres, voilà que j'ai oublié. Si j'ai commis un impair, on va attraper. Moi, j'avais notamment ce jeudi une conférence débat.
Oui,
après, si j'ai oublié, allez-y.
Non, mais c'est d'autres qu'on a rajouté. Mais
bon.
Le jeudi 23 janvier, oui, à 18h30, on a une conférence débat sur les enjeux climatiques qui se passe donc au 35 cours de Verdun, donc au consulat général d'Allemagne, qui sera sur les convergences et divergences franco-allemandes en matière climatique qui sera animée par une discussion avec Carsten Kurowski, qui est un journaliste allemand. Ensuite, le samedi 25 janvier, il y aura une journée art et civilisation avec différents événements tout au long de la journée. Vers 10h, il y aura au consulat général d'Allemagne, il y aura à 10h une conférence sur la mise en perspective historique des relations franco-allemandes par M. Eric Mousson-Lestan, qui est professeur d'histoire et de géographie et qui est l'ancien directeur de l'Institut français de Kiel. À 11h, il y aura une conférence sur les jumelages franco-allemands par Fabienne Febou, présidente de l'EDAF Aquitaine. À 18h, il y aura un atelier avec Rick Bolt, qui est une poétesse et traductrice allemande, autour de l'écriture et de la traduction. Et à 20h, pour bien finir cette journée, il y aura une soirée poète et film. Petite information qu'on a rajoutée, c'est le 28 janvier aussi, il y aura une conférence sur les mémoires de la libération dans le sud-ouest, qui sera animé par l'historien Dominique Lormier, spécialiste de ces questions.
Voilà, c'était bien d'apporter. Voilà, parce que moi, j'avais comme info sur la semaine, ça se terminait le 27, mais ça aurait été dommage d'occulter certains événements. Alors, c'est vrai, quand je vois trois beaux rendez-vous, et samedi, avec toute une déclinaison, avec plusieurs temps forts. Alors, pour les renseignements pratiques, il me semble que la volonté sur cette semaine, c'est que ça soit gratuit pour le public, mais sur certains événements, il faut quand même s'inscrire.
Oui.
Donc là, ce sont les mêmes conditions. Donc, tout le monde est bienvenu. Voilà, c'est il y a cette gratuité.
On a une page Helloasso pour que les gens puissent s'inscrire du coup sur notre site et sur
donc directement auprès de l'association.
Hein. Ouais, c'est ça.
Voilà, alors là vous avez pu participer parce que pas longtemps, on rappelle, vous êtes en stage déjà en service civique déjà depuis quelques temps, mais sur des événements comme celui-ci, vous avez certainement vous Paul Antoine vous avez dû prendre en cours bien sûr parce qu'un stage ça a une durée, mais Jade, vous avez participé à la construction de chaque événement?
Alors, je n'ai pas forcément participé à la construction des événements.
Oui, parce que ça doit se travailler bien
ouais,
en amont.
Hein. Voilà, c'est ça.
Bien sûr.
Après, j'ai fait des événements similaires. J'ai participé en tant que spectatrice, entre guillemets, en tant que voilà, qu'invité. Mais non, au niveau de l'organisation, j'ai pas forcément participé. Ouais, moi, je suis plus sur un projet, le nouveau projet qu'on va vous parler.
On y arrive, ceux d'après. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est histoire de voilà, détailler un petit peu les propos, pas cette culture. Puis là, une semaine franco-allemande d'amitié, voilà, c'est que de jolis mots. Donc ça, c'est une passion. Hein. Vous avez des liens. Ça rentre dans vos vies privées une fois de plus. Et puis, Paul-Antoine, si vous avez choisi ce lieu comme stage et Jade comme service civique, c'est que il y a déjà de volonté, soit dans vos cursus professionnels.
C'est ça, avec le cursus, personnellement, je suis à l'université Bordeaux-Montaigne en double licence, avec une partie allemande.
Oui, je crois que vous avez des amis d'ailleurs au sein de la radio en ce moment. Ouais. Ils sont sur même.
Ils sont là aussi. Oui, c'est un événement. Le Hartung Kultur, c'est un événement. On a l'habitude. Ils avaient organisé déjà des speak dating avec des Allemands où on pouvait parler, on échangeait prise de parole en français et prise de parole en allemand.
Bon, donc c'est pas le fruit du hasard.
C'est pas le fruit du hasard, non.
Choisi. Donc, c'est quoi, du coup, votre rôle au sein de cette semaine? Et puis, on arrive sur l'expo. Je n'oublie pas, on est bien dans le temps. C'est de partager, voilà, de pouvoir toucher notre public pour mieux faire partager, eh bien, voilà, la culture allemande. Et puis, ces liens d'amitié, voilà, il faut que ça perdure. Et grâce à des événements comme le vôtre, donc vos missions. Puis, Jade, vous êtes sur la communication. Donc effectivement, pour communiquer, échanger, je vous demandais si vous connaissiez la MEBA, même si je me doutais de la réponse.
Mais oui, voilà, c'est ça. Et au niveau de la communication, globalement, ça se fait voilà, comme on fait ici aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, on a nos réseaux sociaux où on est à jour et on poste régulièrement. C'est ça, notre Instagram qui est Hartung Kultur. On a aussi du coup notre site internet où, comme on a dit, voilà, on publie nos infos. On a aussi la newsletter où les personnes peuvent s'abonner. Et après, voilà, au niveau de l'objectif en fait, de la semaine franco-allemande, c'est vraiment de faire découvrir cette culture-là à des potentiels intéressés et de tout simplement voilà, créer des relations entre les Français et les Allemands, et principalement les Bordelais.
Bien sûr, et puis mieux découvrir notre culture, c'est sympa, parce qu'au travers de la semaine, on le voit sur le panel de propositions, ça peut être des conférences, il y a même des dégustations, voilà, je suis obligé de dire avec modération. Non, mais ça fait partie de la culture. Ouais. Alors, parmi les autres temps forts, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, il y a notamment cette exposition d'Asbron Design, donc 1er février au 29 mars, c'est pour les amplitudes, les dates, donc au consulat d'Allemagne. Ben, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'on va retrouver, parce que Brown, c'est un nom qui résonne, donc on connaît tous. Mais là, qu'est-ce que vous allez mettre en avant et de quelle manière sur cette exposition à venir?
Cette exposition, c'est un peu une espèce de... C'est un peu une extension, en fait, de la marque Brown à Bordeaux, donc qui va proposer un trajet historique et informatif pour comprendre ce qui se passait dans la tête des têtes pensantes de la marque. Donc dans les têtes pensantes, on reprend les frères Braun, donc Arthur et Erwin Braun, mais aussi leurs amis collaborateurs, donc Fritz Eichler, Hans Gugelot, Holt Eicher et Dieter Rams, qui est particulièrement connu. Et c'est une exposition qui s'articulera autour de 5 thèmes, donc les protagonistes de la marque Braun, Braun et la France, le design en fait l'évolution du design de 1929 à 1955 et celui d'aujourd'hui, le développement des appareils sous l'influence des consommateurs, et Dieter Rams plus particulièrement, et Fritz Eichler, leur thèse et directive. C'est l'exposition, elle présente de nombreux documents écrits et ou dessinés et audiovisuels comme des films, des diaporamas. Qui seront projetés sur des écrans, et surtout, et c'est ça le gros intérêt de cette exposition, c'est qu'on va recevoir 80 appareils de la marque, dont certains qui seront présentés en fonctionnement, des appareils comme des magnétos, des tourne-disques par exemple, et il y aura aussi d'autres temps forts au sein de cette exposition.
Je crois qu'il y a une rencontre le 11 février, hein, de mémoire.
Oui, c'est ça.
J'ai retenu.
Avec la diffusion d'un documentaire sur Dieter Rams.
Bien. Alors c'est vrai que bon, c'est une marque, là, c'est pas pour valoriser, c'est pas de la publicité. Non. Il y a une histoire, il y a un patrimoine. Alors vous allez voir des beaux objets, comment vous avez dit d'ailleurs, Paul-Antoine?
Environ 80 appareils.
C'est éloquent. Hein. Ouais. Donc attention, hein, faudra. Donc le but de cette exposition, parce qu'elle peut avoir plusieurs sens, ça peut être, je sais pas, des étudiants dans certains domaines qui peuvent être intéressés.
Alors on vise aussi un public assez large, un panel assez large.
Bien sûr.
Effectivement, les étudiants sont les bienvenus.
Enfin, tout le monde est bienvenu, voilà, mais je pensais aux étudiants parce que des fois, dans, selon certaines filières, cursus, on peut avoir un intérêt. Donc c'était dans ce sens aussi que, que l'exposition a été préparée.
Comme on a dit, voilà, c'est ouvert à tout public. Après, bien sûr, une rencontre avec des étudiants, on est en train de travailler un petit peu dessus pour savoir comment est-ce qu'on pourrait... prioriser, privilégier des visites, pourquoi pas exclusives, avec des écoles ou des filières, en tout cas, de design ou d'art ou de communication, étant en lien avec cette exposition. Donc on est en train d'y réfléchir.
Bon, mais je sais que tout est pensé. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter en complément d'infos sur l'exposition? Là, on a donné le lieu, à peu près ce qu'on va y retrouver, mais je ne sais pas si vous voulez...
Certainement le vernissage. Ça va être un événement assez important.
Bien sûr.
C'est
ce qui lance en général.
C'est ce qui lance.
Pas toujours d'ailleurs. Des fois, il y a des expositions, elles sont accessibles. Des fois, c'est une semaine après, chacun à sa manière. Là, ça va être le vernissage. En théorie, c'est le premier jour, bien sûr.
Dans ce cas-là, il va vraiment marquer l'ouverture. Et ce sera le 1er février à 16h.
Si je me trompe. C'est ça.
Là, j'adore les regards.
Cette présentation, cette présentation de l'exposition et un pot de l'amitié qui sera organisé.
Bon, ça, c'est le côté, j'allais dire, bienveillant, convivial, alors que là, on a les volets qui n'arrêtent pas de claquer. Si vous entendez des bruits, c'est normal. Là, en général, sur un vernissage, on essaie d'avoir des partenaires, des invités, donc sans me donner une liste exhaustive.
On contacte un petit peu, globalement, les personnes qui peuvent venir. Donc, on a fait un petit peu de prospect, etc., dans la rue, dans des boutiques, voilà.
Bon, puis vous connaissez cet environnement. Je présume que vous avez déjà du réseau en amont, bien sûr.
Et puis après, bien sûr, on a contacté certains médias pour potentiellement qu'ils puissent venir pour faire des articles, etc. sur nous. Voilà. Et aussi, peut-être chose à rajouter, l'exposition, elle a été supervisée par un architecte, donc Roland Goetz, et par Heino Schlegel, du coup, le directeur de l'association Artung Culture, qui sont du coup aussi en partenariat avec la marque Braun et le musée qui nous prête les objets.
Voilà, on repartagera bien sûr toutes ces infos et puis après on verra, comme on a beaucoup de stagiaires efficaces, s'il peut y avoir un petit reportage sur site. Pour l'expo, proprement dite, dans les grandes lignes, s'il y a d'autres précisions, je pense que c'est assez complet. Mais
voilà,
parce que comme je sais que vous avez beaucoup de choses, après on a un petit peu de temps, donc profitons-en.
Juste les locaux aussi, se situe donc au 35 cours de Verdun, donc au consulat. Et donc l'exposition se passe ici, mais pas que l'exposition, c'est en fait notre association qui se situe dans ces locaux. Voilà,
bon.
J'ai envie de la préciser.
Voilà, comme ça, on a
comme
tout
est précis.
Non, mais bien sûr, c'est de bonnes précisions. Après, l'important, c'est de resituer par rapport au lieu des événements. Alors, comme on avait un petit peu échangé tout à l'heure et que vous avez bien préparé, félicitations, ce rendez-vous-là, il y a encore des événements à suivre. Donc là, il va nous rester 5-6 minutes. Donc, si vous voulez présenter de manière chronologique, bien sûr, et nous donner quelques infos, parce que déjà, on voit encore de la diversité, on va parler photo, écrivain, exposition.
C'est ça.
Donc, dans l'ordre.
On va recevoir des écrivains. On va recevoir trois écrivains sur un temps fin mars, sur un temps qui est assez court. On va recevoir un écrivain, Arlad Yenar, qui a écrit Le Temps du Loup, qui parle de Berlin entre 1945 et 1955. On recevra aussi l'écrivain et sociologue Raj Kohlmorgen, qui est sociologue, qui a écrit un livre sur les Länder d'Allemagne de l'Est. On aura un écrivain, Dirk Hochmann, qui parlera de l'Allemagne de l'Est et qui montrera comment l'Allemagne de l'Est est une invention de l'Allemagne de l'Ouest, avec des regards politiques et sociologiques sur ce qui fait l'Allemagne d'aujourd'hui.
Et là, ça n'a pas intéressé beaucoup de personnes parce que là, il y a à la fois des faits historiques, des univers différents pour les écrivains. Ça sera en langue française, je présume. néanmoins l'échange ou...
Alors, oui.
Parce que je vois sur vos documents, c'est normal, hein, il y a ce lien entre la France et l'Allemagne, donc c'est dans les deux langues. Là, après, je me lance peut-être un petit peu vite, mais pour un échange, il faut que tout le monde comprenne. Donc, ça sera peut-être dans les deux langues, du coup
Globalement.
Ces écrivains en question ne parlent pas forcément, effectivement.
Voilà, c'est ça. Ils ne parlent pas forcément français, mais après, il y aura de quoi faire comprendre pour tout le monde.
Bon, voilà, c'est pour ça que je me lançais un petit peu vite. Parce que là, trois écrivains, trois univers, donc je pense que ça va passionner plus d'un. Donc les dates, elles vont, comme là j'ai fin mars, elles vont être, ça se travaille du coup, les dates précises.
Bientôt.
Voilà.
Bientôt,
oui. Oula, ça s'énerve du côté du des volets. Donc si vous voulez compléter, allez-y, sinon y a deux autres événements aussi à suivre.
Bon, je pense que c'est bon, on peut passer à la suite. Du coup, après, du 5 avril au 17 mai, il va y avoir une exposition de photographie. Donc, en fait, l'an dernier, Artung Culture a déjà accueilli la 17e promotion de la Hochschule, une école de photographie qui est rattachée à une célèbre agence berlinoise de photographie. Et cette année, du coup, on accueille la 18e promotion de 5 étudiants. Et voilà, donc on va faire donc l'exposition photo et puis il va s'accompagner peut-être d'autres événements, mais on peut pas encore en dire plus sur ce qui va se passer. En tout cas, voilà. Voilà, et c'est du coup durant le mois de la photo qui se déroule à Bordeaux, donc le mois d'avril.
Voilà, et autre événement un petit peu plus tard.
C'est ça.
Entre mai et juin.
C'est ça, du 24 mai au 28 juin.
On aura donc Lia Daries, qui est directrice de la Ostkreuzschule, qui exposera du 24 mai au 28 juin.
Voilà, donc d'autres beaux événements à suivre. Donc ça, évidemment, ça tombe sous le sens. Toutes les infos seront entre le site internet et les réseaux. Et puis certainement qu'il y a d'autres projets à venir. Après, vous allez terminer votre stage. Et Jade, parce que je vous le souhaite, mais il y a des échéances, vous allez finir. Mais vous contribuez néanmoins pour d'autres échéances. Parce que là, on fait un focus, bien sûr, sur l'actualité. Mais je présume que tout le long de l'année, il y a des événements pérennes, certainement des collaborations. Etc. Donc il faut rester dans l'actu. Là, pour conclure, je ne sais pas si vous voulez revenir sur un point, on va rappeler comment suivre les infos, quoi, les contacts, site internet, peut-être rappeler l'adresse du consulat, voilà, comme vous voulez.
Donc le consulat et donc les locaux de l'association, c'est au 35 cours de Verdun.
Donc à Bordeaux.
À Bordeaux. Pour nous suivre, il y a le site internet, donc notre site internet, donc Artung Culture, avec tous nos événements qui sont publiés sur l'agenda et notre newsletter à laquelle on peut s'abonner très facilement.
Voilà, ça c'est important aussi. Quand on va voir les infos, les newsletters, ça permet d'avoir en temps et en heure dans sa boîte aux lettres. Et les réseaux sociaux, c'est vrai que ça permet d'actualiser. Là, quand il y aura le vernissage de l'exposition, je présume que il y aura. Voilà, ça je m'inquiète pas. Mais Paul Antoine, Jade, si on a à peu près tout dit aujourd'hui, merci pour votre enthousiasme d'être venu nous présenter ces événements. On va les repartager bien sûr via les réseaux sociaux. Et puis là, comme je vois que vous avez des visuels, hein, les outils.
Super. Affiche.
Et les outils de communication, on va pouvoir partager, mais vraiment merci à tous les deux. Et certainement, il y a d'autres personnes qui, dans l'association et au consulat aussi, qui œuvrent dans le même sens, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on fait un petit coucou à tout le monde et à cette belle énergie. Allez, on va en rester là pour aujourd'hui. On va se quitter en musique, donc ça, je n'oublie pas. Donc on a des invitations à vous faire gagner pour le concert de Many Jab. Je vais les redire dès qu'on va lancer la musique. Donc vous nous appelez au 05 56 74 76 85. Allez, on est gentil aujourd'hui, pas de questions. Si vous êtes gentil, vous nous faites un petit coucou amical, vous pouvez repartir avec deux places. Voilà, juste le temps de remercier donc la régie technique Noah, assisté bien sûr par Nicolas. Voilà, merci à tous les deux. Merci à Liam pour la présentation, l'utilisation des brèves tout à l'heure. Et encore un grand merci à vous deux, Jade et Paul-Antoine, d'être venus nous parler de tous les événements à suivre de l'association Artung Kultur. Voilà, on va se quitter donc en musique avec Many Jab. Je rappelle que dans le cadre de la tournée des petites scènes de l'IDAC, c'est pas moins de 13 dates depuis le mois de décembre. Et c'est vrai que les artistes, ils ont besoin de scènes. Et bien sûr, Many Jab, on peut le retrouver hors dispositif comme celui-ci. Mais c'est un véritable soutien, bien sûr, aux artistes locaux. On a eu le plaisir de le recevoir ici, Many Jab, pour une belle session live. Donc là, ce week-end, 24 janvier, il sera à Mios, à la salle des fêtes. Le 25 janvier, à la salle Georges Brassens à Saint-Médard. Le le 28 janvier à Sainte-Foy-la-Grande. Et là, on vous permet de gagner des invitations pour le concert du vendredi 31 janvier. Ce sera à l'espace Kérando à Saint-Jean-d'Illac à 20h. Allez, on se quitte avec Medijab. N'hésitez pas à nous appeler. Hein. Premier appel repart avec deux invitations. Et juste en suivant, vous allez retrouver nos jeunes reporters européens.
Une voiture s'est arrêtée, ils m'ont dit montez monsieur, vitre fumée. Et puis ils ont bandé mes yeux, je me suis retrouvé à l'arrière. Un coude contre la joue, tout le monde s'en foutait. Et je me suis fait enlever en plein jour, j'ai pas eu le temps de voir leur visage. J'ai froid et je frissonne, dans mes côtes je sens des guns. J'essaie de capter un tatouage, de compter les virages. Comme Liam Neeson dans Taken. J'avais pas le choix, je me suis laissé porter. De toute façon les autres je les supportais pas. Non, pour certains c'est sûr vous manquerez. Mais j'ai pas envie de manquer. Au lieu d'attendre l'ouverture j'aurais mieux fait de manquer. Combien de fois je me suis fait des films où je m'échappais. Où je marchais vers le panneau de la sortie de secours. Avec le bonhomme vert qui court. Puis je remettais tout en question à chaque petite secousse. J'aurais pu me casser 10 fois, me faire passer pour mort. Brûler mon passeport, écouter parler cette petite voix. Dire c'est pas assez pour toi, ou peut-être que c'est trop. Laisse tomber le rôle, ça sonne faux, il est pas fait pour toi. Pourtant je kifferais partir avec une valise pleine de pognon. M'installer au Belize avec un faux nom. Peut-être au bord de la mer, rester relax, choisir qui je veux être. En attendant qu'un jour on me démasque. L'impression que ça fait une vie, qu'on est sur la route. Et depuis le temps je pensais qu'il m'aurait buté. Que ça se ferait vite, que j'aurais pas à lutter. Qu'il m'aurait défoncé, puis jeté dans un fossé. Mais je suis toujours à l'arrière, les mains attachées. Bizarrement, je me sens plus vraiment en danger. Ça me ferait chier de crever maintenant seul avec mes regrets. À mon chevet, non, j'ai encore rien achevé. C'est affolant, j'avais tellement de plans, si vous saviez. Tout ce qui me reste à faire se trouve en haut à gauche du clavier. Je me promets que si j'en sors vivant la prochaine fois, je ferai mieux. Il a fallu un sac sur la tête pour que j'ouvre les yeux. Je crois que si j'avais eu l'occasion de me casser dans le Dakota, j'aurais fait ma valise du tac au tac. J'avais mon costume, ma chemise, mais je faisais tâche comme d'hab. Finalement ici, je suis pas plus un otage qu'au tap. En même temps, j'ai jamais eu les couilles de presser la gâchette. Pourtant combien de fois j'ai vu mes rêves dans le viseur. Je préférais rester des heures tapis dans ma cachette, en attendant de me faire enlever par les ravisseurs. C'est fou non, je me suis jamais senti aussi libre. Je m'en suis jamais autant foutu de devenir riche ou célèbre. Est-ce que je suis en train de les remercier? C'est drôle ouais, c'est tout comme j'aurais pas chopé le syndrome de Stockholm.
Écoutez les jeunes reporters européens chaque mardi de 2h30 à 13h sur Eau de Radio.
En partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Carlotta qui parle et comme tous les mardis de 12h30 à 13h, vous écoutez les jeunes reporters européens chez Eau de Radio sur la fréquence 91.3. Ce matin, je suis avec mes trois collègues de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Bonjour. On participe au Corps européen de solidarité et en fait, je vais les laisser présenter eux-mêmes. J'ai à ma gauche Roberta. Bonjour Roberta, comment
Bonjour,
tu vas ?
Bonjour, ça va très bien, merci. Je suis Roberta, j'ai 25 ans et je viens du sud de l'Italie.
Merci beaucoup. Après, je vois un peu d'Allemagne. Coucou Philippe, comment tu vas ?
Merci Carlotta pour l'introduction. Moi, ça va très bien. Du coup, moi, c'est Philippe. Moi, j'ai 22 ans et je viens de l'Allemagne et je suis aussi, bien sûr, volontaire à la Maison de l'Europe ici à Bordeaux.
On passe maintenant à l'Hongrie. Bonjour Dori, comment tu vas ce matin ?
Bonjour, ça va très bien. Et oui, c'est Dori de Hongrie et j'ai 27 ans.
Merci beaucoup les gars pour votre petite présentation. Je vais aussi me présenter, moi c'est Carlotta, je suis également italienne, mais pas du sud de l'Italie, je viens de Florence. J'ai 24 ans et je suis également volontaire à la Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine. Je vais vous introduire un peu le sujet qu'on a choisi pour aujourd'hui. En tant qu'éco-ambassadeur auprès de la Maison de l'Europe, ou aussi dite MEBA, il nous semblait important de vous parler de comment la question du changement climatique est abordée dans nos respectifs pays, qui sont du coup, je vais les répéter, l'Italie pour Roberta et moi, l'Allemagne pour Philippe et la Hongrie pour Dory. On est en 2025 depuis 21 jours aujourd'hui et on va dire que le début de l'année, il est souvent un moment où chacun prend des résolutions. Et du coup, je me demande si pour 2025, il y a des résolutions concernant le changement climatique dans vos respectifs pays, s'il y a des nouvelles politiques ou initiatives qui ont été lancées pour lutter contre ce phénomène. Bien sûr, il peut aussi ne pas y avoir.
Ouais.
Mais peut-être on commence par un pays qui est assez bon sur ce sujet-là, comme ça après on peut
mais
continuer.
C'est quand même le cliché un peu.
C'est un peu le cliché.
C'est cliché quoi.
Parce qu'après ce sera le tour de Roberta et moi et du coup ça va être de pire en pire. Mais du coup Philippe, je te laisse la parole on part sur l'Allemagne.
J'espère de commencer avec un peu de l'esprit aussi. Mais du coup en Allemagne, l'engagement envers des solutions de transport durable reste une priorité quand même en 2022, mais je dirais un peu différent quand même, car je dirais qu'il y a beaucoup des mesures qui étaient prises par le gouvernement de Olaf Scholz, donc notre chancelier actuel, notamment c'était l'introduction d'un ticket de transport pour tous les trains régionaux et des bus en Allemagne. Donc ça veut dire vraiment pour tous les trains en Allemagne, ça c'est complètement gratuit.
C'est incroyable.
Si on paye 58 euros, exactement, 58 euros pour ce ticket. Mais c'est aussi connu par le nom Deutschland-Ticket, donc ça veut dire le ticket d'Allemagne. Mais comme j'ai déjà dit avant, je crois, c'est pas une nouveauté, mais son prix a été augmenté pour la première fois cette année. C'est la raison pour laquelle c'est un peu le changement maintenant. Ça reste une priorité, mais il faut que je mette en avance aussi que ça fait 2 ans que ce ticket a coûté 9 euros par mois.
Mais c'est incroyable.
Donc ça c'est vraiment
pour
impressionnant.
De l'utopie, imaginez biglietto Italia à 58 euros.
Ouais.
Pour l'Italie, pas de ticket gratuit pour nous.
Ouais, ça c'est quand même hyper pratique, surtout pour les étudiants aussi.
Ouais.
Ça c'est aussi pour tous les étudiants, ça c'est pris en charge. Donc ça c'est très bien.
Bah, incroyable, du coup maintenant de l'Allemagne, on passe à l'Italie et on va voir s'il y a des trucs aussi incroyables, mais
non.
Je pense pas.
Non, en fait. L'Italie en fait, s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et d'augmenter aussi la part des énergies renouvelables à 72% dans son mix énergétique. Et en fait, selon l'Organisation météorologique mondiale, le 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et avec une température supérieure d'environ 1 degré, 55 degrés, et par rapport au niveau en fait, pré-industriel. Et moi, en fait, je suis convaincue que la situation ne fera qu'empirer chaque année. Et en fait, pour accompagner ces efforts, l'État a mis en place le super bonus. Et s'agit d'une aide destinée à encourager les habitants à mieux isoler leur logement et pour réduire les pertes énergétiques. Mais
incroyable, j'avais pas lu à propos de ça.
Oui,
c'est bien.
Ouais.
Mais franchement, la news de 1,55 degré, je pense que les derniers jours de 2024, on l'a vu vraiment partout.
Ouais, c'est ça.
C'est du coup, je pense que ça. J'espère que ça va ouvrir un peu les yeux, surtout sur le gouvernement italien. Mais je ne vais pas en dire plus pour le moment. Je laisse du coup la parole à Dory, qui va nous dire quelque chose de plus sur l'Hongrie, que peut-être on n'entend pas autant parler. Mais
Oui, merci. Donc, la Hongrie voudrait, pareillement comme l'Italie, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et tout en insistant sur le rôle de l'énergie nucléaire dans cette transition. Et aussi, en collaboration avec la Pologne, la Hongrie cherche à développer l'énergie géothermique en Europe, profitant de son potentiel géologique favorable. La Hongrie a également mis l'accent sur la gestion durable de l'eau, promouvant la collaboration internationale dans ce domaine. Et aussi, il y a des critiques parce que des critiques ont été émises concernant certaines politiques environnementales et par exemple des mesures ont été prises pour restreindre le développement de l'énergie éolienne et augmenter les taxes sur le solaire.
Ok, merci beaucoup Dori. Franchement, quand je me renseigne sur la presse, je lis pas autant sur ce pays. Du coup, c'est toujours bien d'avoir une perspective.
Ouais, c'est surtout Viktor Orban.
Oui.
Ça c'est un peu malheureusement c'est que ça dans la presse
exact. Du coup,
à l'étranger
c'est toujours un peu touchy mais
ouais c'est ça et ouais. Aussi il faut qu'on dise aussi que Viktor Orban il a pas priorisé ce sujet aussi pendant son
mandat ouais.
Exactement ouais. Son mandat à conseiller au Conseil européen quand il avait en fait, le siège là, mais ouais, ça c'est assez aussi intéressant d'entendre un peu des autres perspectives.
Oui. Ouais. Merci Philippe pour ce dernier tip. Je pense que je pourrais conclure ce qu'a dit Roberta par rapport à l'Italie, si je peux me permettre.
Oui, vas-y.
En fait, le gouvernement présent en Italie, du coup, le parti principal c'est Forza Italia et notre premier ministre qui appartient à ce pays. À ce parti, pardon, c'est Giorgia Meloni. Et il faut savoir que le changement climatique et du coup les actions qui devraient être mises en place pour lutter celui-ci, en fait, ce ne sont que des bruits de fond, passez-moi le terme, dans son programme. Et en effet, en ce début 2025, notre Premier ministre a participé à une conférence de presse organisée plus exactement le 9 janvier. Et pendant celle-ci, en fait, des actions à propos du changement climatique n'ont été mentionnées que et seulement au moment quand un journaliste lui a demandé quelles étaient les relations entre l'Italie et la Grèce. Et Giorgia Meloni, elle a répondu que elle a parlé des relations avec la Grèce, surtout avec Monsieur le Président Mitsotakis, en disant que leurs relations elles étaient excellentes parce que l'Italie et la Grèce avaient comme politique et du coup point en commun la sécurité, la défense, l'immigration et aussi la mise en sécurité du territoire face aux continus événements extrêmes liés au changement climatique. Du coup, ça, c'était le seul point abordé par Giorgia Meloni. Oui. En tant qu'Italienne, je suis curieuse de savoir dans vos pays, cette dernière année, il y a plusieurs événements qui se sont vérifiés et qui ont fait comprendre qu'il est de plus en plus important d'agir pour lutter le changement climatique. Je pense maintenant aux incendies qui frappent aujourd'hui la Californie depuis des semaines et encore aujourd'hui. Ouais. Mais dites-moi en plus sur vos pays. Je pense que l'Italie, c'est assez dramatique. Roberta, tu veux commencer ?
Ouais, tout à fait. En fait, moi, je suis vraiment concernée parce que l'agriculture et l'industrie qui sont très présentes dans le sud de l'Italie sont parmi les premiers secteurs touchés. Par exemple, la production de l'huile d'olive est durement affectée par le changement climatique. Et la moitié, en fait, de cette production vient de Pouille, une région du sud qui subit en fait des grosses pénuries d'eau. Et en fait, c'est la région à côté de ma région, la Basilicate. Et le changement climatique a un impact en fait direct sur l'économie italienne, avec un manque à gagner de 6 milliards d'euros pour les entreprises agricoles. Et j'ai en fait l'impression qu'il y a chaque année un événement plus grave que les autres. Et en fait, ce genre de situation était exceptionnel avant, mais maintenant, en fait, ça devient malheureusement la norme, quoi. Donc, vraiment, c'est dommage. Et ouais, tout à fait.
Du coup, Philippe, est-ce qu'en Allemagne, c'était pareil? Enfin, tu veux nous dire plus sur s'il y a des événements?
Des événements, oui, bah, bien sûr. Je crois qu'il y a beaucoup des événements qui sont... Qui ont touché aussi la population allemande. On avait plusieurs événements qui ont marqué le débat sur le climat ces dernières années. Par exemple, la catastrophe des inondations de 2021 a durement frappé le pays, faisant plus de 180 victimes et mettant en lumière les effets du changement climatique. Donc on a touché beaucoup, mais quand même il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une période où on va avoir des nouvelles élections, et dans le cadre de ces élections-là, le sujet du climat, c'est vraiment moins important qu'avant, et il y a même des idées de la CDU, des conservateurs allemands, d'abandonner quelques objectifs européens qui font partie du pacte vert. Donc ça, c'est un peu dommage aussi pour le climat, bien sûr, et pour les peuples.
Ouais, merci Philippe. Et je comprends que pour le moment, en Allemagne, c'est un peu un moment difficile et tendu. Mais on verra avec les nouvelles élections ce qui va se passer. Et peut-être on voit un dernier point avec la Hongrie et après on fera une petite pause. Dori, tu veux nous dire plus s'il y a des événements extrêmes qui sont vérifiés cette année
Oui, bien sûr. Donc en Hongrie, ces dernières années, des événements climatiques ont montré l'urgence d'agir face au changement climatique. Par exemple, des périodes de sécheresse prolongées ont gravement affecté l'agriculture et le niveau des rivières, notamment le Danube. Crucial pour le transport et l'énergie hydroélectrique. Et aussi, en été, des vagues de chaleur extrême ont frappé le pays, augmentant les risques pour la santé publique.
Merci beaucoup, Dori. Je pense que maintenant, tu peux nous présenter la chanson qui va introduire notre première pause.
Ok, d'accord. Donc maintenant, on vous laisse avec la chanson Earth Song par Michael Jackson.
Merci beaucoup et à tout à l'heure.
All the peace that you pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Bienvenue de retour sur Eau de Radio, fréquence 91.3. Je vous rappelle que vous êtes aujourd'hui avec les jeunes reporters européens, comme tous les mardis de 12h30 à 13h. Pour vous faire un petit résumé de ce qu'on a dit jusque maintenant, on a parlé un peu des résolutions qui peuvent être prises dans notre pays à propos du changement climatique. On voit que l'Allemagne est un très bon pays sur cela, que l'Italie un peu moins. Et ouais. Voilà, on a aussi découvert un nouveau pays dont on n'entend pas trop souvent parler, que c'est la Hongrie. Mais on va du coup continuer toujours sur ce sujet-là. Et j'ai une question parce que voilà, moi je suis italienne mais j'ai quand même pas mal vécu en Belgique, et en Belgique les manifestations pour le changement climatique sont assez puissantes, il y a vraiment beaucoup de participation, alors que en vrai je sais pas trop parce que j'ai pas vécu en Italie ces dernières années, mais je pense pas que elles sont si fortes, et je pense que c'est plus la population étudiante qui participe. Mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une Italienne qui a quand même pas mal vécu la vie étudiante en Italie, à Rome plus précisément. Oui, du coup, je suis sûre qu'elle pourra nous en dire plus. Merci Roberta.
Voilà, merci à toi.
De retour.
Et en fait, dans beaucoup d'autres pays, ce sont souvent les étudiants qui sont en première ligne dans des manifestations pour le changement climatique. Et en fait, ils sont très engagés, qu'elles se sont en fait directement concernées par l'avenir de la planète. Et on voit à travers les mouvements comme les Fridays for Future, qui rassemblent des gens déterminés à faire entendre leur voix et à demander des actions concrètes de la part du gouvernement. Mais comme tu as dit, c'est pas assez fort. Donc ouais, tu avais bien raison.
Est-ce que toi, tu n'as jamais participé ?
Jamais, en fait. Ah, je regrette beaucoup parce
what
que...
What an ambassador.
Ouais, non, c'est pas...
Non, je rigole.
Non, mais t'as raison, quoi. Non, parce que je crois que c'est une partie très importante, en fait, de l'engagement social.
On va y aller ensemble ici à Bordeaux.
Ouais, ici, à Bordeaux.
Il y a plusieurs options.
Ouais, tout à fait. Et en fait, je crois que les étudiants ont cette énergie et cette conviction que les choses en fait peuvent changer. Ils savent en fait que les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur leur futur. Et en fait, c'est pourquoi ils n'hésitent pas à descendre dans la rue, à organiser des manifestations, tout ça. Ouais, je crois que c'est vraiment très important.
Franchement, c'est impressionnant. Il y a tellement de collectifs et d'associations dans les universités que c'est vraiment bien. Mais du coup, on va voir dans le pays apparemment parfait si...
apparemment mieux qu'en Italie, peut-être. Oui. Non, mais du coup, ça m'intéresse aussi. Est-ce que tu penses que ça a augmenté les manifestations en Belgique, ou est-ce que c'était moins avant le Covid, du coup?
Alors, avant le Covid, je ne sais pas, parce que j'habite en Belgique à partir de 2019. Du coup, fin 2019. D'accord. Mais après le Covid, il y en avait vraiment, vraiment pas mal. Et d'accord, l'engagement des étudiants au sein de l'université était vraiment très, très fort. Okay. Mais pas que. Enfin, c'était pas que vraiment l'université, alors qu'en Italie, on a l'impression que c'est que les universités.
D'accord. Ok, ça c'est intéressant d'entendre aussi pour moi, car en fait, moi j'ai un peu l'impression que ça a abaissé un peu les participants de ces manifestations, notamment avec Fridays for Future, donc les vendredis pour le futur. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus des gens qui ont participé, qui ont engagé pour ce sujet-là. Et aussi, ça se voit aussi si on considère en fait les résultats pour les partis pour le parti des Verts.
car ils sont un peu moins populaires maintenant, car ils font aussi partie du gouvernement actuellement, donc ils sont vraiment dans une crise. Mais oui, donc je crois que ça a changé un peu, et peut-être une différence aussi si on compare ça avec l'Italie et la Belgique.
Ouais, l'Italie et sûrement la Belgique, je pense que tous les 2-3 mois, il y a quelque chose qui s'organise. Du coup, je pense que c'est assez bien fait.
Oui, mais c'est, il y a beaucoup quand même. C'est juste on avait plus qu'en genre pré-Covid.
Ouais. C'est la vie. Ouais. c'est le manque de confiance.
Covid a changé tout. Pense.
Ouais. Mais on va voir en Hongrie si... comment ça se passe?
Oui, donc en Hongrie, les étudiants et les militants écologistes organisent régulièrement des événements pour attirer l'attention sur des sujets comme la gestion des déchets, les énergies renouvelables et la protection des forêts. et cependant, la participation générale reste plus limitée comparée à d'autres pays européens comme par exemple la Belgique.
Ok, merci Dory. Là j'ai une curiosité. En ce qui concerne par exemple l'éducation qui s'est faite dans vos écoles, que ce soit vraiment à partir de l'école primaire jusqu'à l'université, est-ce que vous vous rappelez, enfin, à l'université, sûrement, enfin, c'est d'office, mais par exemple, école primaire, collège, lycée, est-ce que vous vous rappelez d'avoir abordé ce sujet? Est-ce que, en fait, vos professeurs vous ont sensibilisé à propos de cela? Enfin, ça ne doit pas être forcément un cours, mais simplement le geste, allez jeter le papier dans la poubelle de papier, le plastique.
Moi, je peux dire pas trop, pas assez. Honnêtement, en fait, j'ai pas eu beaucoup de profs qui ont parlé du changement climatique. Et en fait, on a peut-être vaguement discuté en cours, mais c'était jamais en fait approfondi. Et ça restait en fait assez théorique, comme si c'était juste en fait un sujet parmi d'autres. Et je trouve en fait que c'est dommage, parce que l'école est justement l'endroit où on devrait vraiment sensibiliser les jeunes à ces questions. Donc vraiment, c'est dommage, quoi.
Ouais. Toi, Philippe?
Ouais, je crois peut-être un peu plus. Je crois pendant l'école primaire, on n'a pas vraiment parlé beaucoup de ce sujet-là. Mais surtout au lycée et au collège, on a parlé. Et je me souviens aussi qu'il y a un certain événement qui a influencé beaucoup un peu l'éducation par rapport à ça. C'était la dernière élection de Angela Merkel en 2017, je crois. Autour de cette élection-là, on avait vraiment beaucoup des manifestations de Fridays for Future. C'était vraiment, je crois, le sujet le plus important. Donc forcément, on a aussi parlé collège, au lycée, avec nos professeurs. Et forcément aussi, comme tu as déjà dit avant, à l'université.
Bah, je pense que c'est une très bonne perspective que l'Italie, elle pourrait aussi apprendre. Parce que je trouve que, jusque quand on n'est pas à l'université... Il n'y a jamais la politique qui entre dans les classes. Peut-être plus au lycée, parce que les jeunes, ils commencent à grandir et développer leur esprit critique. Mais je pense que ça pourrait quand même être introduit un peu au lycée et pas du tout. Et du coup, je pense qu'on pourrait beaucoup apprendre de ce point de vue-là à partir de l'Allemagne. On va voir en Hongrie, Dory. Toi, c'était comment tes sentiments pendant tes années d'école?
Oui, donc je pense qu'on a parlé de la protection environnementale à l'école, parce que je pense que j'avais 13 ans quand j'ai appris sur les énergies renouvelables pour la première fois, et après aussi on a parlé de ce sujet.
Oui. Ouais. Je me rappelle encore le cours de sciences. Franchement, pour moi, Roberta, je dois te dire que mon seul souvenir que j'ai d'avoir un peu parlé du changement climatique, c'était plutôt à l'école primaire. Je me rappelle que mes enseignants, ils nous parlaient souvent de comment il était important le recyclage, alors que je te jure que soit au lycée, soit au collège, j'ai aucun souvenir.
Oui, mais t'as bien raison. Peut-être, moi, j'étudiais le 3 et l'économie, en fait, au lycée. Ouais. Donc, un petit peu, mais pas trop. Hein.
Ouais.
Donc, c'est vraiment dommage parce que c'est...
Ouais.
c'est comme tu as dit, on a un esprit critique qui est en fait complètement différent.
Ouais, mais oh, sinon.
Je te jure, aucun souvenir.
Ouais. Ouais, bah sinon, tu as parlé aussi des solutions en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois qu'il y a un concept qui est assez français, qui est une fresque du climat en fait.
Ah oui,
qui marche très bien, honnêtement. Genre, dans le cadre de notre volontariat à la Maison de l'Europe, oui. On a fait plusieurs fois en fait. Ouais. Et ça sensibilise. Oui, ça, c'est un peu difficile à prononcer le mot là. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Et je crois, honnêtement, on a.
Franchement, c'est quelque chose que vraiment on pourra faire dans nos interventions. Exactement. Et moi, je me rappelle pas avoir fait ça au lycée et au collège.
Donc, on a vraiment appris beaucoup.
Alors qu'à l'université, franchement, dans tous les cours, en ayant fait du développement et coopération internationale,
c'est. Et il y a des liens partout.
Vraiment, c'était vraiment à l'ordre du jour.
Exactement.
Mais bon, on a parlé beaucoup de changement climatique qui peut être un sujet. Parfois aussi touchy, qui peut provoquer de la tristesse, vu qu'on est en 2025 et il y a des terres qui brûlent tous les jours et tous les mois et toutes les semaines. Du coup, on va peut-être clôturer cette émission avec un peu de positivité et espoir pour les futures générations. Et chacun de nous va vous partager une bonne nouvelle qui est liée à l'environnement et qui ne s'est pas forcément vérifiée cette dernière semaine, mais ces derniers temps, sûrement. Je vais vous partager une bonne nouvelle. C'est en fait un groupe de femmes qui surveillent et protègent les terres ancestrales. Ce sont les... Pardon pour la prononciation. Les Kraho Warriors. Ce sont 13 femmes qui sont formées pour planifier et adopter des actions de protection territoriale contre les activités illégales de bûcherons, chasseurs et entreprises agro-industrielles dans une zone de plus de 300 000 hectares. Et on est en Amérique latine, au Brésil, si je ne me trompe pas. Roberta, elle va parler d'une solution qui est... fait dans mon territoire, on est en Toscane.
Je crois que tu connais la Via degli Dei, en fait.
La Via degli Dei.
Tout à fait. En fait, c'est les premiers sentiers au monde qui est certifié durable. Mm-hmm. Et en fait, c'est un chemin qui relie Bologne à Florence, donc ta ville en fait, maternelle, à travers les Appennini. Et donc, ces chemins reçus en fait la certification du Global Sustainable Tourism Council. Donc, c'est...
Ouais, c'est
très, très belle nouvelle.
Je suis fière.
Ouais, t'es fière, quoi.
Dory, est-ce que t'as quelque chose aussi à nous partager?
Oui, bien sûr. Il y a une alerte en temps réel pour protéger les écosystèmes qui sont perturbés. Un système de surveillance de Global Forest Watch cartographie et signale les changements dans les écosystèmes. Donc déjà disponible pour les forêts tropicales. Il couvre désormais également les prairies, savanes et zones humides.
Incroyable. Alors, ça, c'est bien.
Moi, j'ai aussi une dernière chose pour ajouter. Et c'est que l'Allemagne a enregistré une baisse record de ses émissions de gaz à effet de serre en 2023, avec une diminution de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Donc, ça veut dire que cette réduction est la plus importante depuis 1990 et rapproche le pays de son objectif de réduire les émissions de 65% d'ici de
2030
par rapport au niveau des 19090. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour donner l'espoir à vous. C'est ça.
Ouais. Bon, franchement, c'est trop bien et qu'on a clôturé cette émission avec un peu de positivité et d'espoir pour les futures générations. On vous rappelle qu'on est les gens reporters européens. On est là tous les mardis de 12h30 à 13h. Et soyez des eco-ambassadeurs tous les jours comme nous, on l'est à la Maison de l'Europe. Et on vous laisse avec une chanson qui s'appelle Wake Up de Arcade Fire. Merci beaucoup.
Merci,
et bonne journée.
Merci, bonne journée.
Ciao.
Votre radio locale adhère à la FRANA. La Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine accompagne ces radios dans le développement de leurs projets, les formations ou encore la défense de leurs intérêts communs. C'est aussi une plateforme d'échange d'informations locales. Vous souhaitez communiquer à l'échelle du territoire ? La FRANA peut vous proposer un plan de communication. Retrouvez la FRANA sur frana.fr, par mail à franaquitaine@gmail.com ou contactez votre radio.